Bonsoir. Un professeur élu dans les Alpes-de-Haute-Provence mis en examen pour tentative d'agression sexuelle sur mineur. L'affaire remonte au printemps dernier à Lyon. C'est une information Alpe 1. Il prend la tête des 432 gendarmes des Alpes-de-Haute-Provence. Le lieutenant-colonel Laurent Gros fixe le cap de ses prochaines missions, notamment la lutte contre la délinquance, vous l'entendrez. Que dit l'État quant à la rénovation de la ligne ferroviaire entre Gap et Briançon? Pour l'instant, c'est le silence. Alors que les deux régions s'engagent financièrement, l'État maintiendra le silence jusqu'au 22 septembre, jour où la ministre des Transports, Elisabeth Borne, sera dans les Hautes-Alpes pour les assises des maires ruraux. Il a décidé, ce sera Armelle Lehen, le maire de Manosque, Bernard Jean-Mé Peralta, est prêt à passer la main pour les prochaines échéances municipales. Mais alors que certains s'agitent, lui se positionne déjà derrière son adjoint. Je vous l'indiquais dans les titres à la une de l'actualité, un professeur basalpin mis en examen pour tentative d'agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans. L'affaire secoue les Alpes-de-Haute-Provence alors que ce trentenaire est également élu dans une ville des Alpes-de-Haute-Provence. Les faits remontent au printemps dernier à Lyon, comme vous le révélez depuis hier soir Alpe 1, les précisions d'Aurore Valory.
C'est une affaire sensible qui éclabousse le monde de l'éducation nationale et politique des Alpes-de-Haute-Provence. Un professeur, directeur adjoint d'un collège privé et conseiller municipal en charge de la jeunesse, des sports et de l'éducation a été mis en examen. Selon une source proche de l'enquête, le parquet de Lyon a ouvert une information judiciaire au mois de mai dernier pour tentative d'agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans. Toujours selon nos informations, cet enseignant qui se trouvait à Lyon, hors de son cadre professionnel, comme nous l'explique cette même source, aurait pris en stop un adolescent avant une agression sexuelle présumée. Le mineur aurait réussi à s'extirper des mains de son agresseur avant de prendre la fuite et aidé par des tiers de donner l'alerte aux forces de l'ordre. Un contrôle judiciaire a dans un premier temps été décidé par le juge d'instruction de Lyon, interdisant à cet enseignant d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs. Une source proche du rectorat d'Aix-Marseille confirme cette information en ajoutant que si cette suspension a dans un premier temps été envisagée, elle a ensuite été levée suite à un appel rendu en faveur du professeur. L'arrêt l'autorise donc à nouveau à reprendre son activité depuis la rentrée, ce que confirme le chef d'établissement qui considère à cette heure que l'enseignant est hors de cause et que rien ne l'empêche d'exercer son métier sereinement. De son côté, le maire de la ville a décidé de retirer la délégation de son élu le 28 mai dernier. L'édile explique sur Alpe 1 lui avoir seulement confié la délégation urbaine. Un maire qui se veut toutefois rassurant et rassuré depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel. Rien ne permet de mettre en cause son mandat, ajoute-t-il, avant de rappeler que la présomption d'innocence est la règle pour tous.
Merci Aurore. Et puis un enfant de 3 ans renversé par une voiture. L'accident s'est produit ce matin à 8h30 devant l'office de tourisme de Savines-le-Lac. Le conducteur aurait été ébloui par le soleil. Heureusement, l'enfant n'a été évacué que pour des contrôles. Et puis un peu plus tard, à l'arrêt de Montéglin, c'est une personne de 90 ans qui a été renversée place de la Fontaine. La gendarmerie des Hautes-Alpes indique que la victime a été légèrement blessée. Quant à la gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, changement de tête à la barre. À 48 ans, le lieutenant-colonel Laurent Gros devient le patron des 432 gendarmes d'active et des 160 réservistes du département. Laurent Gros a donc fixé le cap de ses prochaines missions.
Les grandes priorités, c'est avant tout, et c'est un peu le sens de la police de sécurité du quotidien, c'est toute la délinquance du quotidien, ces petits actes qui peut-être ne feront pas la une des journaux nationaux, mais qui empoisonnent la vie de nos concitoyens. Donc les cambriolages, les sauts à la roulotte, les petits actes de délinquance sur lesquels nous devons avoir une action particulièrement importante. Ça, c'est quelque chose vers lequel nous emploierons. Deuxième axe, c'est évidemment la sécurité routière. Donc on a ici, dans les Alpes-de-Provence, un réseau qui est vaste, qui attire énormément de personnes, notamment en été. On a énormément de motards et on a une accidentologie qui demeure un enjeu et qui ne doit pas être négligée, parce qu'il ne faut pas oublier que la sécurité routière, c'est aussi ce qui peut poser le plus de dommages d'un point de vue humain, et il faut vraiment qu'on s'attache à ce qui est le moins de tués et de blessés possible. Plus globalement, je dirais que, toujours dans la logique du contact qu'on souhaite renouer avec nos concitoyens, les priorités seront aussi celles que nous déterminerons des retours que nous avons des gens avec lesquels nous au profil et à côté desquels nous travaillons au quotidien, que ce soit la population ou aussi les élus ou les administrations partenaires. Voilà.
Le lieutenant-colonel Laurent Gros au micro de Michel Bonnefoy. Le silence est assourdissant et l'inquiétude grande pour le collectif de l'Étoile ferroviaire de Vennes, un collectif qui attend que l'État annonce son engagement pour financer les travaux sur la ligne entre Grenoble et Gap. Si les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur ont garanti leur soutien financier, l'État, lui, n'avance aucune somme. Pourtant, 60 millions d'euros sont nécessaires. Sinon, les Hautes-Alpes ne seront plus reliées à l'Isère par le train, selon Lionel Perrin du collectif ferroviaire de l'Étoile de Veynes.
Enfin, les deux régions, donc PACA et Auvergne-Rhône-Alpes, se sont engagées à financer pour leur part les travaux. Et donc on attend maintenant la réponse de l'État. Ce qu'on sait, c'est que du côté Auvergne-Rhône-Alpes, les travaux probablement vont se faire dans tous les cas. Simplement, si l'État participe, il est très probable que toute la ligne Grenoble-Gap sera refaite. Si l'État ne participe pas, ce qu'on a compris entre les lignes, il y a plusieurs sources à la région qui nous le disent, c'est que les travaux vont s'arrêter en gare de Clèles. Donc en fait, l'étoile ferroviaire de Veynes, qui a 4 branches, une qui va vers Grenoble, sera amputée. Pour quelques dizaines de kilomètres, hein, c'est pas beaucoup de linéaires de voies, parce que l'État ne mettrait pas, c'est une hypothèse, on n'en est pas là, ne mettrait pas la main à la poche. Ben, en fait, si ça s'arrêtait, ça serait arrêté entre Clèles probablement et Aspres-sur-Bèche. Donc en fait, concrètement, ça couperait les Hautes-Alpes d'un accès ferroviaire vers Grenoble. Ça doit être 20 ou 30 kilomètres de voies. On se retrouve avec une ligne qui est complètement coupée.
Et alors que le collectif tiendra son assemblée générale demain à Luz-la-Croix-Haute, la députée des Hautes-Alpes, Pascale Boyer, a déjà confirmé sa venue, mais pas Joël Giraud, son homologue dans le département et rapporteur général du budget. Pourtant, sa voix compte, lui qui l'a souvent portée pour défendre le ferroviaire, Lionel Perrin.
Le silence qui nous inquiète le plus, c'est le silence de Joël Giraud. Vous savez comme moi que c'est un grand ami et un grand défenseur de l'étoile ferroviaire de Veynes. Et quand il est devenu un ami d'Emmanuel Macron, on s'est dit c'est bien, on va pouvoir compter sur lui. Or là, depuis quelque temps, on n'a plus aucune nouvelle. À mon avis, il doit quand même avoir quelques échos sur ce qui se profile. Et donc le silence pesant qui l'entoure, il est un petit peu inquiétant. Alors on va voir. Il sera probablement pas là à l'Assemblée générale. Enfin, il sera pas là. Il nous l'a fait savoir. On essaie de faire en sorte qu'il nous fasse une contribution écrite pour nous dire ce qu'il pense de la situation et ce qu'il attend, lui, pour sa part de l'État. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à avoir de position claire de Joël Giraud. Donc, pour résumer, on se demande si, maintenant que Joël Giraud est l'ami d'Emmanuel Macron, on se demande s'il est encore l'ami de l'étoile ferroviaire de Veynes.
Mais patience, explique à notre rédaction Joël Giraud. Des annonces seront bientôt faites, le 22 septembre, plus précisément à Saint-Léger-les-Mélèzes, puisque la ministre des Transports, Elisabeth Borne, se rendra dans le département des Hautes-Alpes lors des assises des maires ruraux. Une ministre qui aurait déjà confirmé son engagement auprès de Philippe Tabarot, vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en charge des transports. Interrogé ce matin par Alex Cam, ce dernier annonce une autre date, celle de mercredi où un comité de pilotage se tiendra et les montants nécessaires pour l'investissement ferroviaire entre Gap et Grenoble seront connus.
Notre région a été à l'initiative de monter un comité de pilotage sous l'égide de l'État avec la région Aura. Et donc, nous attendons beaucoup de ce comité de pilotage mercredi prochain, qui, je l'espère, nous permettra d'avoir des réponses positives de l'État. Ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est que la ministre a dit que l'État tiendrait ses engagements par rapport au contrat de plan État-région. Et il y a des sommes de l'État qui sont prévues pour les lignes de l'étoile de Veynes. Le comité de pilotage de mercredi nous permettra de faire un état des lieux sur les investissements nécessaires.
Un mot de politique, il tiendra ses engagements et ne se représentera pas en 2020. C'est le maire de Manosque, Bernard Jean-Mé Peralta. Mais si certains commencent déjà à s'agiter pour prendre son fauteuil, lui reste de marbre. Un seul nom, selon l'élu, mérite d'être avancé. C'est celui d'Armel Lehen, délégué aux finances et vice-président de l'agglomération manosquine.
Il a la connaissance parfaite de ce qui se passe sur la finance de la ville. Il est sur le développement économique de l'agglo et qu'il est tous les matins à travailler avec moi de 8h30 le matin jusqu'à midi, de 2h jusqu'à 6h ou 7h le soir. J'ai le sentiment aujourd'hui que d'amener une liste de politiques politiciennes ne me semble pas être de bon ton.
Ouais.
Tout le monde connaît mes idées, je n'en changerai pas, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'on essaye de faire une équipe, si vous voulez, qui soit au service de la commune et qui se préoccupe surtout du développement économique et de l'aménagement du territoire.
Une réponse donc à l'un des probables candidats sur la ville, Roland Gomez, le président de la Chambre des commerces et d'industrie PACA, patron de Promane à Manosque, qui promettait la création d'une liste si aucun projet ne convenait à ses attentes. En bref, des hélicoptères vont survoler la reine Montéglin. La commune prévient sa population que ces survols auront lieu du 18 septembre prochain au 16 octobre et permettront d'inspecter les réseaux aériens afin de détecter et localiser les équipements présentant des défaillances ou des signes d'usure, poteaux endommagés, isolateurs cassés, lignes avec brins coupés ou supports déformés. Le diagnostic permettra ensuite à Enedis d'intervenir pour des opérations de maintenance. D'autres oiseaux, mais cette fois non pas mécaniques, survoleront eux aussi le ciel des Hautes-Alpes pour migrer. C'est l'heure de la liberté pour deux jeunes bondrées, ces rapaces au plumage brun roux, d'allure proche de la buse variable et qui se nourrissent d'insectes, de petits rongeurs ou de reptiles, ont été récupérés à la fin juillet sur Saint-Firmin par des agents du Parc national des Écrins. Depuis, c'est le centre de soins de la faune sauvage de Michel Fizel qui s'en occupe afin de les conduire vers l'autonomie. Phase de nourrissage puis entraînement dans la volière, l'heure est désormais venue pour elle de retrouver la liberté alors que la période de migration pour cette espèce va commencer sur l'axe de la Durance. Le relâcher aura donc lieu demain à 11h au Collet d'Ancel. Un Milan en fin de convalescence accompagnera les deux bondrées pour lui aussi déployer ses ailes. C'est ce week-end, le patrimoine ouvre ses portes partout en France, y compris près de chez vous, à Sisteron, pour les journées du patrimoine. Ce sont les richesses architecturales qui sont mises en avant. Des conférences, des animations, des expositions seront proposées durant ces deux journées avec plusieurs nouveautés. Franck Perrard est adjoint à la culture et au patrimoine à la ville de Sisteron.
Il y a l'exposition Jean-Baptiste Olive quand même, qui, du point de vue du patrimoine pictural, c'est quand même pas rien puisqu'on a une vingtaine de toiles qui vont être présentés, donc Jean-Baptiste Olive, c'est quand même le maître de la peinture provençale du 19e siècle. Et la ville de Sisteron présente à cette occasion une rétrospective pendant plusieurs semaines. Et donc, pendant le week-end des Journées du patrimoine, on aura accès au musée gallo-romain à l'espace d'Ornano à cette exposition. Donc ça, c'est quand même des temps forts. On a également en nouveauté la distillation de lavande en direct sur un alambic de 1900, donc au magasin Absolu Lavande qui se trouve en face du musée gallo-romain. Et puis alors, il y a une autre nouveauté aussi, c'est qu'à la cathédrale, nous avons un orgue et nous avons une association qui fait vivre cet orgue. Le samedi à 18h, nous allons avoir un voyage au cœur de l'orgue avec un musique et une film d'animation. En réalité, c'est un espèce de film qui a été réalisé en allant sur toutes les pièces de l'orgue à l'intérieur et qui va être projeté sur écran géant, de sorte que les gens qui ne voient jamais l'orgue, en fait, hein, puisqu'il se trouve en partie haute, derrière eux à la cathédrale, puissent découvrir chacune des pièces internes de l'orgue et comment un orgue fonctionne.
Dans le Pays Sud, c'est dans l'art du partage que l'on décline cette 35e édition avec trois thèmes, la nature, la culture en partage et l'habitat. D'ailleurs, à ce sujet, c'est une nouveauté cette année, deux visites guidées d'un genre un peu particulier seront proposées à Embrun et Josier. On en écoute Roger Mas, président du Pays Sud.
Nous avons choisi deux agglomérations, une grande et une petite, on va dire. On a choisi Embrun et on a choisi Josier. Nous se dérouleront des visites, ce ne seront pas des visites traditionnelles. Il s'agit d'une animation quelque peu ludique, un peu décalée également, pour présenter l'histoire, pour présenter l'architecture, d'une part, et en même temps pour questionner un peu les visiteurs sur ce qu'ils attendent demain de l'habitat en fonction du changement climatique. Pour nous, c'est un questionnement. Voilà. Donc, c'est une visite d'Embrun et de Josier. Pour Josier, c'est samedi à 15h et à Embrun, dimanche à 15h. Voilà, c'est une visite un peu insolite, un peu décalée, que nous avons expérimentée cet été. Ça a bien fonctionné, ça a intéressé les gens, parce que la visite étant interactive, on interroge les gens. Et ils sont très curieux, effectivement, de connaître et de proposer des idées sur l'habitat de demain.
Des propos recueillis par Quentin Pérez de Tudela.
Alpin Sport. Alpin Sport.
On retrouve Romaric Ponce avec les rendez-vous sportifs du week-end. C'est maintenant, on commence avec le nord des Hautes-Alpes en effervescence samedi et dimanche.
L'ultra raid VTT de la Meije au départ de Villard d'Arennes et le Serche Trail Salomon autour du massif des Serres. Voilà deux événements qui vont mettre à rude épreuve les organismes ce week-end. Pour les VTTistes, il sera question de 122 km et 5500 mètres de dénivelé positif sur le raid ultra. Pour les trailers, la distance reine du Serche Salomon fera 50 km et 4000 mètres de dénivelé positif. Et puis notez que l'ultra raid de la Meije prévoit d'ores et déjà une édition record en termes de participants, avec 602 dossards enregistrés. Ce n'est pas tant le dénivelé que la chaleur qui sera compliquée à gérer pour Sébastien Ogier ce week-end. Le pilote haut-alpin est au rallye de Turquie jusqu'à dimanche avec pour mission de récupérer des points sur le leader au championnat Thierry Neuville. C'est le choc de la soirée en Ligue Magnus. Les 4 derniers titres nationaux du hockey français sont réunis sur la glace de l'Île-la-Croix pour la première journée du championnat de France. Gap se déplace à Rouen. Les deux équipes abordent le match avec le plein de confiance puisque les Hauts-Alpins restent sur une série de 4 victoires consécutives en préparation, tandis que Rouen a signé un succès retentissant dimanche en CHL face aux Tchèques de Moonfield. Mise au jeu de ce Rouen Gap à 20h. Demain, toujours en hockey, eh bien ce sont les Diables Rouges de Briançon qui ouvriront leur saison en Division 1. Les hockeyeurs de la cité Vauban seront eux aussi en déplacement, mais du côté de Neuilly-sur-Marne en région parisienne. La mise au jeu demain soir est prévue à 18h30. Troisième tour de la Coupe de France de football ce week-end. Plusieurs clubs sud-alpins seront engagés dimanche à 15h. Le Gap Foot 05 recevra Mandelieu, Sainte-Tulle accueillera le Canet-Rocheville et Vennes réceptionnera Riez. Dans le district des Alpes maintenant, ce sera le deuxième tour de la Coupe Robert Gage. 8 matchs au programme, dont 7 dimanche à 15h. Laragne-Aiglun, Champsaur-Valgonne-Marla-Roche, Barcelonnette-Valensole-Gréoux, Seine-les-Alpes-Oraison, Pépin-Serest-Réanne, Fort-Calquier-Sisteron et Vivo-04-Vinon-Durance. Il faudra attendre 17h dimanche pour le coup d'envoi de la 8e et dernière affiche, Saint-Martin contre Manosque. Et puis toujours en football, notez le dernier match de préparation du groupement féminin des Alpes. C'est samedi à 15h à Ribier avec la réception du football club Sud-Isère. Enfin, pour finir, un mot de handball avec la reprise de la compétition pour les handballeurs gapensais samedi. Rétrogradés, on le rappelle, en pré-national cette saison, ils seront à Traits demain à 21h pour tenter d'ouvrir leur campagne 2018-2019 par une victoire.
Merci Romaric.
Vous êtes témoin d'un événement ? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.